Tout le monde adore quelqu'un ou quelque chose. C'est ce qui est marqué dans la description de l'affiche de cet architecte qui travaille à New York aux jeunes d'une famille de 7 enfants au Congo. Ils adorent quelque chose. De l'étudiant qui développe des jeux vidéo au Japon à la famille de paysans, pas du tout pratiquantes, qui habitent dans une ferme à Moudon. Ils adorent quelque chose. Tout le monde adore quelque chose ou quelqu'un. Et j'aimerais faire un petit sondage. Un sondage, qui aimait ou aime lire Tintin? Ok. Bien. Qui a lu plus de 10? Ah ouais, d'accord. C'est bien mélanger les générations, c'est très intéressant. Moi, quand j'étais petit, j'aimais pas trop Tintin. Je préférais Astérix ou Boule et Bill. Je trouvais que Tintin avait trop de texte. Enfin, le texte prenait presque la moitié de l'image. C'est trop de texte pour une BD. Mais j'en ai lu aussi quelques-uns, pas 10, mais quelques-uns. Tintin l'oreille cassée, par exemple, c'est une des BD que j'ai lues. L'histoire tourne autour de cette statuette-là. C'est une idole d'une tribu d'Amérique du Sud qui est volée du musée de Bruxelles, mais qui est bizarrement rendue le lendemain au musée. Et Tintin découvre que c'est une fausse qui a été rendue et il tente de percer ce mystère. À un moment donné, la prochaine image, il découvre qu'un sculpteur fait beaucoup de copies de cette statuette dans son atelier, et puis ça l'intrigue. Et j'aime bien cette prochaine image, qui est dans l'atelier, justement. Et je raconte ça parce que la Bible, elle dit que tout le monde, qu'on soit croyant ou pas, on se fabrique des objets d'adoration. Pas des statuettes, comme celle représentée sur cette image, mais des choses ou des personnes qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Regardez cet exemple en Ézéchiel. C'est marqué « Un jour, quelques responsables du peuple d'Israël vinrent me trouver et s'assirent devant moi. Alors l'Éternel m'adressa la parole et me dit, « Fils d'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. » Probablement qu'en entendant ces accusations, les responsables de la communauté d'Israël auraient dit, « Mais quelles idoles ? On a aucune idole. » On fabrique pas ce genre de choses, on adore le vrai Dieu. Mais à mesure qu'on lit l'histoire d'Israël, on voit que Dieu veut montrer plusieurs fois que mon cœur, que ton cœur a cette tendance folle de transformer les bonnes choses de la vie en le but ultime à atteindre. Les choses créées deviennent le projet de vie. En Grèce, il y avait ces villes pleines de dieux. C'était des statuettes en forme humaine, des statues en forme humaine pour représenter des objectifs de vie. Par exemple, il y avait Aphrodite, la déesse de la beauté et du désir. Du coup, c'était j'ai envie d'avoir la beauté, j'ai envie que d'autres me désirent. Du coup, je sacrifie à cette déesse pour atteindre cet objectif de vie. Ou Arès, le dieu de la guerre. Donc quoi, du coup, avant de partir en sacrifie à ce dieu pour être sûr de la victoire, ou Athéna, la déesse de la sagesse, ou Héphaïstos, le dieu des travailleurs, des artisans, de la technologie, ou Hermès, le dieu des voyageurs. Chaque fois, c'est une qualité, un objectif de vie, et il y a une représentation de statue, et je sacrifie à ce dieu pour atteindre cet objectif de vie. Du coup, c'est des bonnes choses de la vie, être victorieux, découvrir de nouvelles technologies, faire un voyage sûr, c'est bien. Mais y personnaliser en Dieu et puis mettez la confiance dans cette chose pour leur confort, pour la sécurité, pour le bien-être. Et alors, ils sacrifiaient pour recevoir ce qu'ils voulaient. Et c'est pas très différent des idoles du cœur, finalement. Par exemple, j'ai quelques amis d'à peu près mon âge au Brésil qui sont en couple mais qui ne veulent pas d'enfants parce que ça va déranger leur plan de vie. Par exemple, leur plan d'études supérieures ou alors leur loisir, la possibilité de voyager ou d'être libre en tant que couple. Et c'est un peu dur ce que je vais dire, mais est-ce que ça ne peut pas être dans certains cas un sacrifice moderne d'enfants à ces idoles-là, si quelqu'un sacrifie avoir des enfants pour faire son doctorat, c'est un peu comme un sacrifice à Athéna, la déesse de la sagesse. Quand j'aurai mon doctorat, quand j'aurai cette sagesse-là, peut-être, je penserai à avoir des enfants. Ou quand un couple ne veut pas avoir des enfants pour pouvoir voyager dans le monde, c'est un peu comme sacrifier à Hermès. Je sacrifie ma possibilité d'avoir des enfants pour voyager et profiter de la vie. Bien sûr, la majorité de ses amis peuvent encore décider d'avoir des enfants. Ils peuvent changer d'idée. Mais je me rappelle surtout un couple qui nous a dit très franchement, on ne veut vraiment pas d'enfants pour pouvoir garder ces choses-là. On ne veut pas d'enfants pour garder ses plaisirs ou ses objectifs-là. Et la Bible dit que si on décide d'être en couple, les enfants, c'est un des plus grands héritages qu'on peut avoir. Et on a récemment écrit à un de ces couples, notre ami, pour dire, mais regardez ce que la Bible dit. Est-ce que voyager et avoir une certaine liberté de couple est le meilleur projet de vie pour votre vie de couple? Dans quelques années, ça sera peut-être trop tard si vous décidez. Pas maintenant. Et comme j'ai dit, le pas à pas pour créer une idole est très simple. C'est quand on prend quelque chose qui est bon, une bonne carrière, la sécurité financière, une relation amoureuse, notre famille, l'écologie ou une activité pour Dieu, et on la transforme dans un essentiel. Il me faut ça, sinon je ne suis pas complet dans ma vie. On veut absolument penser de cette chose et on va jusqu'à se blesser et à blesser d'autres personnes sacrifiées pour réussir ce qu'on veut, pour satisfaire cette idole du cœur, essayer d'atteindre le désir par derrière cette idole. C'est comme cette autre femme que je connais qui a vécu des privations dans son enfance, dans son pays d'origine. Aujourd'hui, elle vit en Suisse, elle est mariée, elle est stable financièrement, elle peut partir en vacances une fois par année, elle peut offrir tout ce que ses enfants ont besoin. Et pourtant, elle se plaint encore de choses qu'elle voudrait donner à ses enfants, mais que c'est trop cher. Et de ne pas pouvoir partir en vacances plusieurs fois par année. Et de ne pas avoir les bonnes choses de son pays. Et de vivre en location. Et de devoir payer autant pour le loyer. Il me semble que là, l'idole, c'est la soif de posséder. La Bible dit la soif de posséder qui est une idolâtrie. Encore une fois, c'est pas une statue. C'est quelque chose du cœur qui est une idolâtrie. On peut parfois croire que les idoles, c'est juste ceux qui s'accrochent aux pierres pour des guérisons ou ceux qui vénèrent la statue d'un saint. Mais non, plus une chose est bonne, plus on a la tendance de croire qu'elle peut nous satisfaire pleinement. Timothée Keller, un auteur chrétien, il a beaucoup réfléchi et écrit sur la notion d'adoration dans la Bible. Il dit qu'il y a trois types d'idoles. Il y a des idoles individuelles, comme ma réputation. Ça serait le désir d'être bien vu par les autres, le désir d'approbation de son conjoint ou de ses parents. Ou les plaisirs du corps, la nourriture, le sexe, l'alcool, des jeux, des drogues. Ou encore la santé, être en bonne forme physique, ou être trop accroché à sa beauté, ou le succès lié à l'argent, ou à une position, ou à ce que mon ministère a pu accomplir pour Dieu. Après, il y a des idoles culturelles qui changent de pays par pays, comme par exemple, la Suisse est sûre, on n'a pas de guerre, on est en paix grâce à la Suisse. Ou le système politique suisse est stable, on peut lui faire confiance. Il n'y a pas de remous comme dans d'autres pays. Ou une grande fascination par le progrès technologique, peut-être dans le Silicon Valley ou là à l'EPFL. Ou l'idole du fait que économiquement la Suisse va bien, chaque Suisse en bonne santé peut travailler et vivre correctement. Ça c'est des idoles culturelles. Et puis il y a des idoles intellectuelles, comme de mettre son espérance et bâtir toute sa vie sur les sciences, la recherche, la connaissance, et elles peuvent guérir le monde. Ou sur l'écologie, si seulement tout le monde vivait en mode zéro déchet, le monde en entier serait tellement mieux. Ou si seulement je maîtrisais plus la musique, et puis je base l'espérance de ma vie sur ces bonnes idées, ces bonnes connaissances intellectuelles. Et même les activités pour Dieu peuvent devenir une idolâtrie. En 1 Samuel 15, le roi Saül, il allait partir en guerre, mais il avait reçu l'ordre de Dieu de conquérir la ville et de ne rien garder, de tout détruire. Et le texte dit, mais le roi Saül et le peuple épargnèrent Agag ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, des bonnes choses. Hein. Ils ne voulurent pas avouer la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. Alors du coup, il y a le prophète Samuel qui va lui rendre visite. Et le roi Saül, il est très convaincu de lui-même. Il répond à Samuel, le prophète, « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Et Samuel répond, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Et Saül répond, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. » Et aujourd'hui, j'aimerais supposer qu'ils disaient la vérité, qu'ils étaient vraiment sincères, qu'ils ont vraiment gardé pour faire un grand festival en honneur de Dieu pour le remercier pour la victoire. On va supposer qu'ils disaient vrai, parce qu'il avait donné la victoire, donc c'est des bonnes intentions. C'était pour faire un service pour Dieu. Mais Samuel, il répond, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Saül, il dit qu'il voulait prendre le meilleur pour offrir à Dieu. Et Dieu, il lui répond, mais je t'ai pas demandé ça. Tu fais ça parce que c'est tes propres projets et tu as mis dans ta tête que tu veux le faire. Ne me dis pas que tu fais pour moi, tu fais pour toi-même. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tout ce qu'on peut offrir pour Dieu. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Écouter sincèrement ce que Dieu dit vaut mieux que notre argent ou que nos actions pour lui. Et Samuel termine en disant, en effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Le roi Saül voulait offrir un sacrifice à Dieu et Samuel appelle cette action de idolâtrie. C'est quand même choquant. Une action faite pour Dieu qui est de l'idolâtrie. Parce qu'il n'a pas écouté, parce qu'il ne s'est pas soumis, parce qu'il n'a pas obéi. Il n'a pas fait ce que Dieu avait demandé. Quand j'étais au Brésil, j'avais été envoyé par le poste de l'armée du salut à Torre, où on était, pour un congrès à São Paulo sur les cultes. Et c'était une grande église qui organisait sur comment faire des cultes modernes, attirants pour les non-chrétiens. Et ils avaient beaucoup d'idées très intéressantes. Et je suis revenu et j'étais super motivé avec tout ce que j'avais appris. Je me suis dit, ouais, il faut qu'on mette ça en pratique, qu'on change ceci, qu'on change cela, qu'on fasse des séries de messages et tout plein de choses comme ça. J'arrive à l'équipe de leaders. Puis eux, ils étaient pas très convaincus. J'ai dit, si, ça sera trop bien, on y va, on fait comme ça, ça va marcher. Et puis tout ça. Et ils étaient pas du tout convaincus, mais ils ont dit, ben alors vas-y, tu forces tellement pour remettre ça en avant, ben mets-le. Et ça a duré au maximum 2 mois, les changements, parce que personne n'avait adhéré. Et aujourd'hui, je suis convaincu que c'était pas ce que Dieu avait demandé pour ce poste à ce moment-là, en tout cas. C'était moi et mes idées et mes projets que j'essayais de mettre en avant. Aujourd'hui, c'est différent. Je suis convaincu que c'est bien de faire ces séries parce que le CDP approuve aussi. On a discuté ensemble. Mais à l'époque, non. Je voulais faire parce que je voulais faire et pas parce que Dieu voulait qu'on fasse. Peut-être mon idole, c'était si on suit cette idée, ça va forcément être mieux, les cultes, Dieu va plus parler. Est-ce que c'est vrai? Cette idée va amener plus de gens pour Jésus. Est-ce que c'est vrai? L'idole, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on fait confiance et qu'on obéit. C'est la prochaine diapo. Chose qu'on aime, qu'on fait confiance et qu'on obéit. J'aimerais faire un petit test pour découvrir notre idole. Ma sœur, elle s'est mariée très jeune. J'avais à peu près 9 ou 10 ans quand elle s'est mariée. Et un jour, il m'avait invité pour aller chez eux. Et puis chez eux, il y avait une console de jeu. Je sais plus si c'était Nintendo ou Mega Drive. Je sais plus qu'est-ce qu'ils avaient. Mais ils avaient une console de jeu. Et j'avais trouvé super. On pouvait jouer aussi là chez eux. Et quelques temps après, j'ai redemandé si je pouvais aller dormir chez eux. Et alors, mon beau ma sœur Cindy, elle dit, demande à Ricardo. Du coup, mon beau-frère. Et puis, je demande, est-ce que je peux aller dormir chez vous? Et il m'a dit, écoute, la console de jeu est cassée. Alors, j'ai dit, c'est pas grave, j'aimerais aller quand même. Quand j'arrive chez lui, il y avait rien qui était cassé, elle était là. C'était un test. Il voulait savoir, est-ce que tu veux vraiment venir chez nous parce que tu veux venir chez nous? Ou est-ce que tu veux venir chez nous parce qu'il y a une console de jeu et tu veux jouer à la console de jeu? C'était une question piège pour savoir qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelles sont les intentions de ton cœur? Du coup, j'aimerais poser quelques questions pour révéler qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Quelles peuvent être nos idoles qui sont bien cachées là-haut? Du coup, c'est des choses qu'on aime, qu'on fait confiance et qu'on obéit. La première question, c'est celle-là. Quels sont tes rêves les plus fous? La Bible décrit souvent des idoles comme des faux amants qui nous promettent une estime de soi ou des sentiments d'amour, de valorisation. Et on peut rêver des heures avec ça. Rêver et penser à ce genre de choses. Peut-être c'est un indice d'une idole. Deuxième question, sur quoi tu mets ta confiance pour être heureux et pour que la vie ait du sens? La Bible utilise aussi des images religieuses, genre faire confiance à quelque chose pour être son sauveur, pour te délivrer, ou attendre de quelque chose qu'elle nous donne la paix, la sécurité qu'on a besoin. Ça peut pointer aussi vers une idole du cœur, cette question-là. Ou qu'est-ce que tu as peur de perdre et qui te fait prendre des décisions impulsives? On prend des décisions qu'en fin de compte nous blessent ou qui blessent les autres. On obéit à ce que dit cette idole du cœur parce qu'on croit qu'elle nous protège. On obéit et donc on va la servir. On peut aussi analyser avec cette question, qu'est-ce qui provoque en moi une colère incontrôlable, une anxiété ou une tristesse profonde? Ça peut aussi pointer vers une idole du cœur, quelque chose qui crée ces sentiments-là quand ils se passent. On a été créé pour adorer. C'est pour ça qu'on tend toujours vers quelque chose ou quelqu'un. Mais il y a seulement un Dieu qui peut nous satisfaire pleinement et qui, même si on échoue, peut vraiment nous pardonner. Il y a seulement un qui peut faire ça, nous pardonner vraiment. Et la Bible nous encourage à faire comme cette image de la BD de Tintin. À un moment donné, il y a une statue de révolutionnaire qui est cassée. Et c'est ce que la Bible nous encourage à faire. Le verset dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. » L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce premier dimanche, le but, c'est de reconnaître qu'on a des idoles, tout le monde, qui prennent la place de Dieu, tous, même les très bons chrétiens. Je vous invite à le reconnaître déjà devant Dieu, c'est le début, mais pas seulement, de cette semaine, de le dire aussi à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que tu fais confiance, qui va prier pour toi, qui va te demander des comptes sur la place que ces choses occupent dans ta vie. Parce que mettre en lumière des idoles, c'est déjà commencer à les casser, de les révéler à quelqu'un et de les révéler à Dieu. Parce que notre objectif, c'est que Dieu prenne la première place et que la bonne chose soit une bonne chose qu'on utilise, qu'on profite. Et on remercie Dieu pour ces bonnes choses. Et on va plus voir sur ça comment profiter des bonnes choses vraiment sans qu'elles prennent une place sur la mesure qu'ils doivent prendre. Pas un but ultime à atteindre les bonnes choses de la vie, mais juste une bonne chose. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci pour ce que ta parole nous enseigne sur la place que des bonnes choses peuvent prendre dans notre vie. Et on a un désir sincère que c'est toi qui prennes la première place de notre vie. Que c'est toi qui on met notre confiance. Seigneur, c'est en toi que on veut, c'est à toi qu'on veut obéir. Seigneur, c'est toi qu'on veut aimer par-dessus toute autre chose. Seigneur, aimer, faire confiance et obéir. Ces trois choses, on veut consacrer à toi en premier lieu dans notre vie. Et on veut laisser en deuxième rang les autres bonnes choses de la vie. Et je demande de révéler au fil de cette semaine, au travers des situations, comment on réagit quand il y a des nouvelles, quand il y a des situations, de révéler des idoles qui peuvent être là dans notre cœur, qui essayent de prendre ta place, pour qu'on puisse les détruire, Seigneur, et mettre en lumière devant une autre personne aussi, pour les démasquer, et que toi, tu puisses prendre la place qui te revient dans notre vie. Amen.